Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes croutons, mes croutonnes de gorgonzola aux noix, j'espère que vous allez bien. Un grand merci pour vos retours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle arrête pas de s'allumer, de s'éteindre. J'ai l'impression que les esprits sont parmi nous, là. Attends, la lampe... J'essaie d'enregistrer le podcast, mais il y a la lampe qui déconne. Elle fait pas du bruit, mais elle s'allume et elle s'éteint comme si mon arrière-arrière-arrière-grand-mère essayait de me faire passer un message, là.
Peut-être écoute ton arrière.
Non, mais en plus, avec le chat qui miaule. Regarde, ça arrête pas de... Qu'est-ce que c'est, là? Pourquoi ça s'allume et ça s'éteint? T'as vu, ça arrête pas d'envoyer des petits... Qu'est-ce que c'est que ce... Tu vois? T'es pas électricien. Bah, attends, mais tu l'as bien... T'as réussi à la réparer l'autre jour?
Ben non.
Ah bon, bah tant pis. Ça marche? Je peux utiliser toute cette discussion-là pour le début de l'épisode ou pas?
Tu as enregistré tout ça?
Ouais, ça enregistre. Ah bah tu vois, regarde, si, ça compte... Bah, alors, là, c'est
là,
quoi?
Là, c'est ton arrière-grand-mère.
Là, c'est mon arrière-grand-mère qui nous parle. Ça arrête pas de clignoter.
Ça clignote plus, là.
Mais ça, c'est... Bah si, ça continue de clignoter. Ah, là, ça marche.
Bah, je crois.
Ok, merci. Ouais. Minou, c'est pas tout de suite le repas. Pardon. Chers auditeurs, chères auditrices, un grand merci pour vos retours sur le dernier épisode du podcast où je racontais l'ultime étape de ma congélation d'ovocytes. J'ai eu mal au bide au moins pendant une semaine après la ponction. J'ai pas encore totalement dégonflé. Je me suis blindée de spasfon pour que ça passe. J'attends enfin que ça fasse 10 jours pour ne plus ressentir les effets des hormones. Je crois que ça va de mieux en mieux. C'était pas une partie de plaisir et c'est long pour obtenir les rendez-vous. Je m'y suis quand même pris il y a des mois. Mais le traitement en soi pour une seule ponction, c'est pas long. Donc je continue à vous encourager. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la saison 5 avec une invitée. Et pour cela, j'ai choisi Camille Aumont-Carnel, dont vous connaissez peut-être le célèbre compte Instagram Je m'en bats le clito. On a parlé de son nouveau livre, Les mots du cul, qui sort le 5 octobre et que vous pouvez déjà précommander en ligne. Camille s'est racontée à travers son enfance, les pays où elle a vécu, son amour du langage, le pouvoir de la répartie, de l'humour, les vertus de la colère. On était dans un bureau et pas en studio, donc pas tout à fait l'idéal pour le son, mais ça va. J'étais plus concentrée sur les réglages pour son que pour le mien, donc je crois qu'on m'entend parfois un peu faiblement. Je ferai très attention la prochaine fois, promis, je sais. Vous m'avez souvent fait la remarque et je vais redoubler de vigilance pour la technique cette saison. J'ai recroisé jeudi Camille sur Quotidien et c'était un bonheur. Elle était aussi passée dans Zoom Zoom Zen le jour même. C'était tellement agréable d'avoir une alliée sur le plateau. N'hésitez pas à retrouver nos passages respectifs sur nos comptes Insta. Et maintenant, la discussion. Bonne écoute.
Mesdames, je suis à vous.
Ah, génial.
À vous. Moi, mon clit, mon cul, on est à
l'heure. Waouh, et bah trop honorée, et je t'ai écrit un petit poème.
Camille. Oh mais non.
Si.
Oh.
Chère Camille, tout d'abord un grand merci pour ton travail sur Instagram et pour ton livre qui sort bientôt, Les mots du cul. Ton compte Insta, Je m'en bats le clito.
Absolument, madame.
M'accompagne depuis des années, quasi quotidiennement. J'aime le ton libre et cru, vrai, décomplexant, marrant. Je pourrais citer plein de posts, mais s'il fallait n'en retenir qu'un, j'adore celui-ci. Quand je te dis que je suis à deux doigts d'avoir un orgasme, commence pas à faire des dingueries avec ta bite, tes doigts et ta langue, s'il te plaît, reste focus, c'était parfait. Bon, ça c'est
collector. On adore.
Envie de l'imprimer, de l'afficher, de le mettre dans l'entrée, quoi. Dans ton livre, tu fais un travail sur le langage phénoménal. Tu inventes de nouvelles expressions pour combler l'écart entre certaines réalités et ainsi, tu rebaptises par exemple les règles, les irrégulières. C'est beaucoup plus juste. Perso, à 34 ans, j'arrive toujours pas à savoir quand elles arrivent, quand elles repartent, est-ce qu'elles seront légères ou abondantes, douloureuses ou non. C'est à chaque fois une petite surprise. Tu nous apprends aussi qu'il existe un syndrome post-menstruel, et je connaissais que le prémenstruel, comme quoi on a encore tellement de choses à découvrir sur nous-mêmes. Merci Camille d'aider à briser les tabous de façon joyeuse, drôle et personnelle. Peux-tu me raconter comment l'idée de ce livre est née?
Oh là là, j'adore. J'adore cette intro. Déjà, merci à toi. Et ce livre est né d'une passion pour la langue, une passion pour la linguistique, depuis toujours. Moi, j'ai grandi entre 4 pays, j'ai jamais vécu plus de 5 ans dans le même pays, donc je suis née au Niger, on est resté 5 ans ensuite en France du côté de Montargis pendant 4 ans, Madrid pendant 5 ans et Madagascar pendant 4 ans. Tout ça pour le travail de ma maman, qui était diplomate, inspectrice de l'éducation nationale, donc en fait j'ai quand même eu des parents très très pédagogues et très très axés sur tout ce qui est transmission linguistique, le sens de la langue et tout ça, et je pense que c'est quand même resté imprégné, ça fait partie intégrante de mon éducation, et c'est vrai que il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est que moi, j'ai passé toute ma préadolescence en Espagne en apprenant l'espagnol. Et donc, finalement, pendant ces 5 ans-là, j'ai presque pas parlé français. Et l'espagnol est une langue que, dans laquelle moi, je me sens très à l'aise parce que c'est une langue qui est pensée pour que le vulgaire soit féminin. Ouais. Et ça, je trouve ça très, très fort. Là où le français, tous les souvenirs du début que j'ai, c'est vraiment des souvenirs traumatiques linguistiques, quoi. C'est ouais. vraiment le masculin l'emporte sur le féminin. J'ai 5 ans.
Ouais.
Et on attend de nous qu'on soit des personnes complètement empouvoirées, qu'on ait complètement confiance en nous, alors que j'ai un peu l'impression qu'on nous a coupé l'herbe sous le pied avant même de commencer. Et donc la langue, pour moi, ça a toujours été une façon déjà de se défendre. Ça fait partie des choses que j'ai toujours mis en avant pour éviter toute forme de violence. Et c'est vrai que ce soit le racisme, le sexisme, toutes les discriminations que j'ai pu vivre depuis que j'étais toute petite, la grande arme que j'ai toujours utilisée, ça a été la répartie. Mais parce qu'à un moment donné, il y avait quand même un côté, c'est tellement violent ce qui se passe que, et j'ai pas envie de te taper, et j'ai pas envie de tomber dans cette violence physique-là. Du coup, je vais utiliser une autre forme d'arme qui me paraît du coup beaucoup plus pacifique, qui va être les mots, qui va être l'humour, qui va être l'autodérision, qui va être un truc où d'un seul coup, je vais te sécher et tu vas plus savoir quoi dire.
Ouais.
Et j'ai toujours utilisé ça comme ça, mais dès toute petite, dès la cour de récré.
Ouais, t'as des exemples, parce que je t'ai entendu beaucoup dire que ta création venait de la colère, que t'étais une grande gueule. Enfant, t'as des souvenirs quand t'es...
J'ai un souvenir de... Alors ça, c'est un... pour te dire, j'étais petite, hein, je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans, c'est ma mère qui me racontait ça. Donc du humour de personne de 3 ans, mais qui jouait déjà avec la langue. Je devais faire, je sais pas, une énième connerie comme d'habitude, et ma mère me dit, franchement, t'exagères, quoi. Là, tu... Et elle me dit, franchement, tu t'es levée, tu nous as regardé droit dans les yeux, et tu nous as dit, non, non, je ne suis pas exagère, maman.
Ah, je ne suis pas exagère.
T'exagères? Non, non, je ne suis pas exagère. Ce genre de truc. Mais qui à 3 piges sort ça, en fait?
C'est pas possible. C'est trop mignon.
Ce genre de choses. Ou encore, je me souviens de, pendant toutes mes études, moi, j'ai fait une école de gastronomie. Ouais. Donc, j'ai été formée dans des restaurants gastronomiques triplement étoilés. Et je me souviens d'un chef en Bourgogne qui pensait m'insulter en me disant que, de toute façon, j'étais beaucoup trop intelligente pour faire ce métier-là. Ce à quoi je lui ai répondu merci. Vous venez de dire que vous étiez assez con pour le faire. Ce genre de truc où, après, il y a des trucs un peu plus hard, mais là, comme ça, j'ai pas d'exemple. Mais c'est, en fait, c'est toujours, moi, j'ai une répartie qui est très spontanée.
Okay.
Mais je refuse de trop la mettre en avant. Parce que j'ai l'impression que ça peut être aussi très complexant pour tout un tas de personnes qui, on s'est tous et toutes retrouvés dans ces situations où, en fait, t'as pas su quoi dire.
Ouais.
Et c'est 3 heures après, sous la douche, où on débriefe avec ta pote, où tu lui dis, mais tu vois, là, j'aurais pu dire ça.
Ouais.
Et en fait, la situation, elle est passée. Et ce que j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là, c'est, je ne crois pas uniquement en la répartie spontanée. Pour moi, la répartie, ça s'apprend. Et je refuse de croire qu'il y a les personnes qui en ont et les personnes pour qui c'est mort. Je milite activement pour une forme vraiment d'apprentissage papier-stylo, où en fait, on peut presque... Parce qu'on les connaît, hein, les situations dans lesquelles on se retrouve dans la merde ou les situations dans lesquelles... Il y a un truc de, en fait, j'ai envie de te buter, mais je ne peux pas et je ne veux pas te buter. Donc je vais devoir utiliser autre chose. Et là, et moi je sais que j'ai plein de copines qui le font, c'est vraiment papier, stylo, et on note toutes les situations et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on dise? Quelle est la phrase à sortir? Qu'est-ce qui sèche? Et donc, la langue, moi, ouais, ça vient de là. Ça vient de l'humour de mon père qui faisait toujours des blagues à 2 balles que je trouvais hyper ringardes, mais qui maintenant m'attendrissent énormément. Ça vient de chansons, et puis ça vient vraiment d'une forme de, je refuse de taper.
Ouais.
Donc je vais devoir attaquer avec autre chose. Parce qu'il était hors de question pour moi de pas répondre. face à tant de violence, face à tant de racisme, face à tant de sexisme, face à tant de classisme, face à tant de grossophobie, face à tant de c'était pas possible quoi, tout le harcèlement de rue, et ça a commencé, et j'ai l'impression que ma répartie est devenue hyper pointue quand je suis arrivée en France à 17 ans et que je me suis retrouvée dans la rue à m'habiller absolument comme je voulais, à ne jamais être dans une espèce de programmation de alors je vais faire ci ce soir, tel chemin, donc j'ai envie de... Et, mais en assumant complètement les risques aussi que ça englobait. Et du coup, la répartie, ça a toujours été un truc très... très fort pour moi, en passant et en assumant même parfois de passer même par l'humiliation. Je suis complètement à l'aise avec ça. Mais parce que j'ai remarqué que pour beaucoup d'hommes, la seule façon de faire en sorte qu'ils nous laissent tranquilles, c'est l'humiliation publique face à leur père. Père, P-A-I-R-E-S.
Oui.
Y a rien de plus... Et là, je suis en train de me remémorer toutes les situations dans lesquelles il m'est arrivé des dingueries, mais je sais qu'il y a eu vraiment ces moments où le mec a fini par se taire parce qu'il se sentait assez humilié. Et j'assume complètement ce truc de... En fait, soit on est égaux, soit je te domine. Il n'y a pas d'autre solution, à mon sens.
J'adore.
Cette phrase est peut-être un peu...
Non.
Mais je crois pas, c'est hors de question de... En fait, 5 000 ans de patriarcat, je crois qu'on s'est assez fait niquer.
Ah ouais, non, puis voilà, je suis dans une phase où j'ai pris un café hier avec une pote qui m'a dit qu'elle venait d'avorter. Résultat, je suis dans un truc, mais en fait, nos vies sont tellement plus dures. Enfin, ouais. Tu vois, en fait, je
dirais... Rien pour ça. Il y a une forme de... Ça s'appelle le féminisme compensatoire. Pourquoi pas?
Ouais.
En fait, on prend déjà tellement cher, c'est tellement déjà plus... Tout est tellement fait pour que... Donc, s'il y a 0,05% des espaces et des discussions dans lesquelles, bah en fait, pourquoi pas?
Ouais.
Est-ce que c'est pas ça finalement la forme d'égalité qu'on recherche? C'est dominer à certains moments dans certains espaces. Moi, très sincèrement, je suis pas contre. Et notamment la rue, ça fait partie des espaces où je peux très vite. Je vais sur le terrain de l'humiliation. Avec toujours humour. Il n'y a jamais une insulte qui sortira. D'autant plus que j'ai l'impression d'insulter toutes les femmes quand je sors des insultes aujourd'hui avec ce que j'ai à portée de main. Donc ça ne me va pas. J'insulte soit les mères, soit les femmes, soit le sexe des femmes, soit les prostituées. En fait, soit t'es une pute, soit t'es un fils de pute, mais entre les deux, il n'y a pas grand chose, quoi. Et je refuse. Donc je vais aller sur d'autres terrains. Mais qui sèchent très vite parce qu'il y a un côté de. En fait, t'as installé un niveau de répartie qui fait que la seule réponse possible, c'est le même niveau de répartie. Et si la personne en face n'a pas ça...
Eh ben, elle s'écrase comme une belle merde.
Elle bégaye. Et j'adore voir les hommes bégayer. Mais donc, ça vient de là, et puis ça vient d'un manque total, quoi. Et c'est la genèse du compte Instagram aussi. Je m'en bats plutôt, j'ai créé ce compte il y a 5 ans. Et c'était un cri de... J'en peux plus de cette langue qui me calcule pas.
Trop genrée.
Trop genrée, trop phallocentrée, trop hétéronormative, trop pénétrocentrée, trop tout en fait.
Oui, trop je m'en bats les couilles.
Trop je m'en bats les couilles, trop on parle de la chatte que quand il s'agit d'avoir de la chatte. Trop avoir de grosses couilles. Et j'étais là, bah, moi j'estime être une personne qui a toujours eu des grosses couilles au sens figuré, mais concrètement entre les jambes, c'est pas ce que j'ai. Et donc la violence de la symbolique versus ce que j'ai dans ma réalité, à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de prendre le pas sur ça et de se dire, en fait, in fine, une langue qui ne te calcule pas, c'est une société qui t'invisibilise.
C'est clair.
Et je refuse ça. On fait partie de la moitié de la planète, donc à un moment donné, je n'avais pas le temps d'attendre que la langue change. Et j'ai voulu, à un moment donné, moi, prendre les devants et dire, bah, voici les expressions dans lesquelles je me sens à l'aise. Voici les expressions dans lesquelles j'ai l'impression qu'on me considère. Et voici les expressions dans lesquelles je peux assumer ma vulgarité sans qu'on me dise que je suis un bonhomme.
Ouais. Oui. Et c'est fou quand, parfois, quand on dit juste les mots qui parfois ne sont pas, même pas vulgaires, qui sont juste les mots qui peuvent être crus, mais qui sont en fait juste les mots, on est taxé de vulgarité.
Alors, bah, moi, quand je dis je m'en bats clito,
ouais.
Les gens me disent que je suis vulgaire. Quand je me balade dans la rue avec un tote bag où il y a écrit « je m'en bats les clitos », j'ai des remarques. Je me balade avec le même tote bag avec écrit « je m'en bats les couilles », personne calcule. Quand je dis « je m'en bats les clitos », ça fait sourire. Quand je dis « je m'en bats les couilles », il n'y a pas de réaction. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? En fait, c'est comme... Mais on est limite à un niveau de hiérarchisation des organes, quoi. C'est vraiment... les couilles, c'est plus noble, c'est plus accepté que le clito. Pourquoi? Alors, il y a la méconnaissance, puis il y a le fait que ça soit un organe de plaisir.
Ouais.
Qui fait fissurer tout le monde.
Ouais, c'est clair.
Mais moi, c'est ce que je trouvais intéressant. Et je voulais pas rentrer dans « je m'en bats les ovaires » qui aurait été le pendant le plus logique d'un point de vue scientifique.
Ouais.
En disant « ok, bon bah, je m'en bats les couilles, je m'en bats les ovaires ». Ça ramenait ma démarche, et là je parle vraiment à la première personne, via un prisme très reproduction, droit des femmes, tu vois, droit des femmes très maternelles, l'IVG, qui à mon sens était beaucoup plus lié à une révolution sexuelle qui était plutôt la révolution sexuelle de mai 68. Ouais. Moi, je m'inscris vraiment dans ce qu'on appelle la révolution sexuelle post-MeToo, le féminisme de la quatrième vague qui est notamment caractérisé par la présence du digital et des hashtags. Et je voulais, à un moment donné, qu'on parle de plaisir, qu'on parle d'orgasme. Et parler de clitoris, finalement, ça permet de parler de masturbation, d'orgasme, de plaisir, de cet organe qu'en fait, qu'on connaît si peu, qu'on représentait du moins à l'époque si peu. Ça permet aussi de parler d'excision et de violence génitale. Donc j'avais un peu l'impression que cet organe était un emblème quand même hyper fort, qui moi, à titre personnel, et je voyais bien, il y avait un élan quand même très générationnel, on s'y reconnaissait parce qu'on était vraiment en train de se dire, les enfants, on verra, d'abord on a des orgasmes.
Ouais, grave, il y avait vraiment besoin. Non mais c'est clair. Et ce qu'il y a de hyper ouvert avec ton compte, c'est aussi la forme humoristique.
C'est important pour moi. Sinon, ça passe pas. En fait, je sais pas si j'avais envie de dépenser toute l'énergie de mon militantisme à combattre le cliché et ce qu'on peut avoir comme idée de la féministe enragée. Mm-mm. Je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, je suis pas sûre que mon combat il soit là. Du coup, on va contourner pour qu'il n'y ait même pas de place à ce débat-là. Mmh. Et l'humour, c'est ce que ça m'a permis finalement. C'était une forme de. Et au début, je me souviens, il y avait vraiment les comptes militants féministes d'un côté. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que je suis rentrée tardivement dans le classement parce qu'avant ça, j'étais limite dans la lignée de VDM.
Ouais.
Et tous ces comptes-là un peu drôles, parlent de cul de façon... limite, on pouvait faire des blagues malabar avec, quoi.
Ouais.
Et c'est après que vraiment. Et quand j'ai pu vraiment m'exprimer sur. Pourquoi ce format-là? Pourquoi ce ton-là? Pourquoi cet édito-là? Que là, vraiment, on se dit, ah oui, ok, non, s'il y a vraiment une démarche derrière militante. Mais l'humour, ça permet de désamorcer tout de suite ce truc de, oh là là, encore une féministe qui va nous saouler.
Ouais, ouais. Oui, oui, ça démocratise, c'est accessible. Et en fait, c'est hyper intelligent de ta part parce que ça... C'est ouvert à plus de monde aussi, parce que la forme humoristique, le langage que tu utilises, qui varie, mais fait que plein de personnes peuvent se sentir concernées, là où parfois un certain langage féministe, peut-être un peu élitiste, peut exclure des gens.
Ouais, ou alors avec... moi, je sais que j'avais cette volonté, pas au départ, mais très vite, c'est arrivé, de pouvoir inclure les hommes. Mm-hmm. J'ai pas du tout voulu faire quelque chose d'entre-soi.
Ouais.
Au contraire, moi, j'avais vraiment cette volonté de... que le message passe aussi. Et j'avais l'impression que le seul moyen... Parce qu'en fait, souvent, on oppose les deux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la porte d'entrée, c'est à peu près la même. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée avec tout un tas de femmes qui trouvaient ça vulgaire et oh.
Mm.
Et en fait, en face, presque la même quantité d'hommes
qui pouvaient
trouver ça... comment dire?
Choquant.
Choquant, dégueu, graveleux. Mais l'humour faisait que ça réunissait tout le monde.
Ouais.
Et les gens qui pouvaient de premier abord être en mode non mais t'es sérieuse, enfin genre pourquoi tu parles comme ça. Et les mecs qui pouvaient être un peu genre bah je sais pas, ça s'appelle je m'en bats le clito, donc clairement j'ai pas ma place.
Ouais.
Et très vite je me suis rendu compte qu'en fait mes haters étaient des femmes.
Ah c'est terrible.
Mes haters ne sont pas des hommes.
C'est fou.
Mes haters sont des femmes d'entre 40 et 55 ans.
Waouh, des boumeuses qui veulent pas que tu lèves le voile sur des sujets qui, elles, considèrent, qui doivent rester de l'ordre du mystère, c'est ça?
Qui doivent rester de l'ordre du mystère. Et franchement, en fait, c'est, sociologiquement, ça m'intéressait vachement.
Ouais.
Donc, moi, la première vague de haine que je me suis prise, quand j'ai compris que c'était des femmes, je me suis dit, il faut que je comprenne ce que ça vient toucher. Parce que j'ai très vite compris que ça ne voulait rien dire de moi, que ça voulait tout dire d'elle, et qu'en fait on était dans un exercice parfait de projection. Et je me suis dit, ok, bah en fait on va essayer de comprendre. Et j'ai échangé avec toutes ces femmes-là, et je leur ai dit, mais du coup, qu'est-ce qui va pas? Et les plus sincères d'entre elles m'ont dit, en fait tu fous le seum.
C'est terrible.
En fait tu fous le seum. Tu parles d'une sexualité que tu en fait tu vois tout ce truc, tout ton art du détail là. Moi je peux pas relate. Je ne m'identifie pas, je ne comprends pas de quoi tu parles.
Waouh.
Moi j'ai arrêté de me masturber à partir du moment où j'ai rencontré mon mari, c'était il y a 25 ans. Moi j'ai accepté que après mon accouchement, oui, le point du mari. En fait, tu décris une sexualité qui me paraît tellement lointaine, mais c'est pas juste lointaine, c'est un lointain inaccessible. Il y a même pas l'échelle, il y a même pas le pont que je peux imaginer pour. Donc en fait, à part me ramener à une forme de en fait, c'est trop tard pour moi et j'ai raté et je suis passée à en fait tu me mets devant la gueule tout ce à côté de quoi je suis passée. Mmh. Et en fait, c'est ça ce qui se joue. Quand je dis « mes haters sont des femmes », c'est de la souffrance pure et dure.
Ouais.
C'est pas du « oh mais attends, franchement, il y en a peut-être deux ». Franchement, très sincèrement, j'échange avec 350 personnes par jour depuis 5 ans. C'est te dire l'amas de messages que j'ai pu avoir. Il y a peut-être deux personnes qui m'ont sorti l'argument du « une femme, ça parle pas comme ça ». Le reste, c'est pas ça. C'est juste « je sais pas de quoi tu parles ».
Wow.
Et le dernier point, c'est en fait, je vois, et c'est très très dur en tant que, alors déjà dans un premier temps, c'est dur pour moi en tant que femme, et puis c'est dur pour moi en tant que mère, parce que je vois bien que la façon dont tu t'exprimes, les outils que tu utilises, tout ce que tu déploies, ça atteint en termes de, d'éducation sexuelle beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus efficace mes enfants que moi ce que je suis en train de faire avec eux. Donc ça, donc c'est en fait c'est un espèce de, ça me, c'est de la projection d'un double échec.
Wow.
Un en tant que femme et deux en tant que mère. Du coup, ça, en fait, tu, ça marche même pas, en fait.
Waouh, c'est triste, c'est vraiment frustration. Mais
c'est
triste.
C'est pour ça que j'ai 0 once de.
Ouais.
Tu vois, tu me verras jamais faire une vidéo où je dis ouais, non, mais allez.
Ouais.
En fait, c'est pas ça ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est on s'est tous fait niquer.
Mm.
On s'est toutes fait niquer dans l'histoire du patriarcat. Et c'est ça le sujet, c'est ça ce que ça vient réveiller. Donc, in fine, et ça, je l'ai déjà dit, et je sais que ça choque. Moi, mais toi, j'ai envie de leur faire des câlins.
Ouais.
Et j'ai envie de leur dire, c'est pas trop tard. Je sais que t'en as bouffé du concept de la femme qui a une date de péremption, mais je suis en train de t'expliquer que c'est pas vrai.
Putain, tu gères ça bien. Et alors que, en plus, finalement, le fait de créer ton compte, le buzz, le fait que d'un coup, je m'emballe clito, ça monte à 600, 700 000 abonnés, et que, alors qu'à la base, t'avais fait une école de restauration, enfin, que tu faisais complètement
autre chose. Ouais, je voulais
être chef. Ouais.
À la base, mon dos, c'est les poireaux et les carottes, absolument.
Ouais.
Bah ouais.
Et c'est un truc qu'on vit bien, le rapport aux réseaux sociaux. Après, tu dis que tu voulais aussi inventer ton métier, donc finalement, tu l'as fait.
Je l'ai fait, ouais.
Mais est-ce que c'est pas
finalement... je voulais être libre, quoi.
Ouais.
Si je suis sincère avec toi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand je me suis posé la question d'arrêter la cuisine, enfin même pas d'arrêter, de postponer, disons.
Ouais.
J'ouvrirai un jour mon resto, c'est sûr. C'est très vite posé la question. Et c'est là que tu vois les croyances limitantes de tout un tas de personnes. Ce que je me suis essentiellement pris dans la gueule, c'est oh, mais va falloir que tu recommences, va falloir que tu refasses des études de journalisme et des études de sociaux et des études de. Et profondément, moi, dans mes tripes, mon corps et mon âme me disaient, en fait, ce que tu vas faire, c'est exactement ce que tu faisais déjà, à savoir essayer de te faire de la place dans un environnement dans lequel on veut pas de toi. Essayer de disrupter un univers, une industrie qui fonctionne pas comme ça d'habitude. Est-ce que c'est possible de faire le buzz sans incarner?
Mmh, oui, parce qu'au début, on voyait pas ton visage.
C'est... Ouais.
Ouais.
Est-ce que c'est possible de faire le buzz avec une DA de merde? Est-ce que c'est possible de faire le buzz avec des codes couleurs qui sont pas du tout les codes couleurs qu'on te conseille? Est-ce que c'est possible? Bah ouais.
Mmh.
Et finalement, c'est ça ce qui se jouait. C'était, moi, j'ai commencé la restauration et la gastronomie en me disant, je veux être la première chef noire française éthologuée de Michelin. C'est mon rêve depuis que j'avais 8 ans. J'ai pas perdu ça de vue. En terminale, j'ai hésité entre ça et Sciences Po, parce qu'entre temps, j'ai voulu faire de la politique. J'ai voulu être ministre de l'égalité. On en reparle dans 10 ans.
Mais tu l'es un peu, hein, franchement. Tu fais de la politique avec ce, enfin, ton livre.
Je donne de la force, franchement.
Ouais,
en fait, je change pas de loi.
Mmh.
Et in fine, je pense que l'acte de pouvoir, parce que finalement, faire de la politique, c'est quand même une forme de pouvoir. Moi, pour l'instant, j'utilise mes privilèges, on va dire, pour essayer d'avoir un maximum d'influence sur l'intime des gens. Et je pense que transposer ça à de la politique, c'est passer d'influence à avoir du pouvoir.
Mmh.
Pas sur l'intime des gens, mais sur le quotidien et sur vraiment le vous sortir de la merde, quoi. Tu vois, il y a pas d'autre terme, faire en sorte qu'il y ait des choses qui ne se passent plus. C'est utiliser le présent pour avoir un impact sur sécurisé pour le futur. Et ça, pour l'instant, je vis dans l'instant, tu vois.
Ouais.
Il y a pas de projection dans mon travail. C'est-à-dire que c'est du quotidien, je suis dans l'urgence.
Ouais.
Je ne suis jamais dans l'anticipation. Et je pense que si un jour j'envisage de faire une carrière politique, il y a vraiment cette notion de, du coup, on fait comment pour que dans 5 ans ça soit plus comme ça?
Ouais.
Et c'est ça qui différencie les deux. Mais vraiment, je me souviens très bien de ce moment où je me suis dit, où est-ce que t'es le plus utile? Et c'est ça vraiment qui m'a guidée. C'était pas mon narcissisme, c'était pas mon ego. C'était vraiment, est-ce que vraiment t'as envie de continuer à faire des carottes et des lasagnes de pommes de terre tout aussi bonnes soient-elles, hein? Ou est-ce que là vraiment t'as un truc qui est en train de se passer, où c'est des femmes qui te disent merci,
ouais,
et où tu as un impact positif sur la vie de ces femmes à court terme? Qu'est-ce qui te drive le plus? Et je me suis dit, franchement, je retournerai à la restauration plus tard, quoi.
Mmh.
Et j'ai pas réfléchi longtemps.
Et ça t'a pas fait vriller d'un coup, justement, des milliers de personnes qui t'écrivent, qui te remercient, qui te disent qu'elles t'aiment? Non, c'est...
Alors ça, oui. Les personnes qui me remercient et qui trouvent utile ce que je fais, ça me fait pas vriller. La sursollicitation ne me fait pas vriller non plus.
Ok.
Donc, c'est-à-dire, moi, c'était vraiment... Faut savoir qu'au début, je prenais 2000 abonnés par jour. Donc, c'est énorme.
Ouais.
Et c'est 2000 personnes qui ont quelque chose à te dire.
Wow.
Ça ne m'a jamais déstabilisée. Par contre, la personne qui se met à pleurer devant toi et qui te dit « t'as changé ma vie »,
c'est trop.
Ça, c'est dur à gérer. C'est très dur à gérer. Sans jamais être dans une posture de « je viens décrédibiliser ce que tu dis ». Non, mais arrête.
Non,
c'est pas... Sans jamais être là-dedans, parce qu'en fait, la personne, elle est très sincère quand elle te le dit. Et du coup, tu peux pas non plus rentrer dans un truc de jugement de valeur où tu dis « mais non, mais... » enfin. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis retrouvée dans un truc de « du coup, moi, c'est qui ?» La personne sur les réseaux sociaux que je ne connais pas, qui n'est pas mon amie, qui a changé ma vie. Et en fait, ce qui a été dur là-dedans, ça a été le fait de dire, moi, j'ai pas ça. Moi, c'est qui, moi ? Je m'en bats le clito. Et j'ai pas ça. Et donc, ça a mis des années. Hein. Là, je t'en parle maintenant avec toute la conscience du monde. Mais l'exercice très compliqué, ça a été, en fait, je ne peux pas identifier l'endroit où t'es là, toi. Parce que moi, j'ai pas ça. Si j'avais une personne à qui j'avais envie d'écrire sur les réseaux tous les jours, ou si je croisais en vrai, où je pouvais lui dire, en fait, t'as changé ma vie, je pourrais te dire, ok, je prends. Mais j'ai pas ça. J'ai un truc ultra rationnel là-dessus de... Déjà, il n'y a pas de t'as changé ma vie. C'est peut-être à un moment donné, sur une durée, tu m'as accompagné. Tu m'as aidé à ce que ça soit plus doux. Tu m'as écouté. T'as été un vrai soutien. Il n'y a pas de t'as changé ma vie. Moi, j'ai pas ça dans mon cadre de référence. Et donc, ça a été hyper dur d'accepter. Et puis, à un moment donné, la grande différence, c'est que j'ai arrêté d'essayer de comprendre.
Ouais. C'est qu'il y a de la souffrance et que c'est...
En fait, c'est ça.
Tu parles évidemment de plaisir et avec humour, mais aussi parfois, tu fais des posts engagés sur les agressions sexuelles, sur le viol, notamment dans les milieux du rap. Donc forcément, il y a des victimes qui vont lire ça et il y a des gens que ça va bouleverser, quoi.
Et que ça va bouleverser et qui vont avoir, à un moment donné, l'impression de... Et ça, je pense que c'est ce qui me fait le plus mal au cœur dans tous les messages que je reçois. Parce que j'ai beaucoup de messages de témoignages de viol, de tentatives de féminicide. Il y a aussi tout ce pendant-là hein, dans nos médias, ce qu'il ne faut pas oublier. C'est pas que on parle de flux et de règles. Il y a toute une partie où c'est de l'urgence vitale quotidienne. Et ça, on a des process, tu vois, on sait quoi faire, vers où les... Et en fait, très vite, je me suis rendu compte, et ça, au début, c'était très dur aussi à gérer, c'est pas parce que c'est à toi qu'on demande de l'aide que c'est toi qui dois trouver la solution.
Tu rédiges vers le chat, comment on s'aime
vers du chat, vers de l'association, vers des numéros d'avocats d'urgence, vers tu vois. Et je comprenais pas au début, parce que tu sais, tu te renseignes et puis tu sais, t'as envoyé peut-être je sais pas 100 personnes sur 5 mois, puis à la fin t'essayes de faire un petit compte rendu et puis la personne te dit il y en a deux moi qui m'ont appelé. Et là t'essayes et tu dis bah pourtant, et là, moi-même, je me rends compte que je me suis direct mis en mode sauveuse, alors qu'il manquait une question cruciale et qui va orienter toute la suite de l'échange. C'est du coup, je peux t'aider comment ? T'attends quoi de moi ? 90% des personnes me disent je ne cherche pas de solution, je voulais juste en parler à quelqu'un. 90% des victimes. Je veux pas de solution. Il n'y a pas de solution. C'est moins de 1% des plaintes qui aboutissent. Le système lui-même fait qu'il n'y a pas de solution. Donc en fait, je suis pas là-dedans. Par contre, j'ai besoin de poser un curseur. Ça, c'est un truc qui revient pour la plupart des victimes, c'est j'ai juste besoin que tu me dises que t'as entendu pire. J'ai juste besoin que tu me dises que t'as entendu pire. Et c'est pour ça qu'on t'écrit à toi, parce qu'on sait que t'en as entendu de tout, tu sais. Et j'ai besoin de me dire qu'il y a pire. Elles ont besoin de mettre un curseur et de peser, au sens poids, le mal qui a été fait.
Putain, c'est fou. Et en même temps, c'est... Ce qui est beau, c'est la confiance qu'elle te porte et en même temps...
C'est une confiance, aveugle. Hein.
Ouais.
C'est une confiance aveugle mais qui est aussi nourrie parce qu'il y a une forme de sacralisation. Et c'est comme ça que j'ai orienté ma com sans le vouloir. Hein. C'est-à-dire que je m'en bats le clito et est passé d'être un compte Instagram à un média, à un mouvement, à un espèce de cri de volonté de tout un tas de choses, à un avatar. C'est une personne. Et je le vois parce que quand les personnes m'écrivent, c'est « Coucou, je m'appelle Clito ». Il y a plein de gens qui savent pas que je m'appelle Camille.
C'est vrai.
Ouais. Il y a un truc de... C'est limite une application, tu vois. C'est Adibou. C'est Adibou post-MeToo. Mais tout ça m'a vachement aidé moi, pour comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de personnes? En fait, je m'appelle Clito, est une personne.
Et donc, la démarche ensuite de te dire « Ok, ce compte Instagram, il génère ce niveau-là d'engagement. Maintenant, il faut qu'il y ait un livre. » C'était pour un peu aller plus vers la théorie de certaines choses. Tu avais envie de travailler justement avec cette... c'est une philosophe, ta co-autrice ?
C'est une linguiste spécialisée en sociologie. Spécialisée en sociologie. Et en fait, Noémie Marinier, on va la citer, qui est une tête, hein, machine de guerre, franchement. Moi, j'avais envie de... En fait, moi, j'ai grandi avec des dictionnaires chez moi, trilingues. Donc français, anglais, espagnol. Et je me souviens de moments où vraiment Et notamment à Madagascar. À Madagascar, il y a des coupures d'électricité très très intenses, notamment pendant la période des pluies.
Okay.
Où tu peux te retrouver 48 heures sans électricité. Et soit t'as un groupe électrogène chez toi, soit t'en as pas, et du coup, bah, t'as pas d'électricité. Et moi, je me souviens vraiment, et je vais pas dire ça, ça fait très fille d'inspectrice, mais vraiment, je me souviens d'heures et d'heures à kiffer lire Dedico. Donc on avait le Robert à la maison, on avait le Real Academia, qui est donc dictionnaire espagnol, et il me semble qu'on avait un dictionnaire bilingue français anglais. Et je me souviens de kiff, de vraiment juste lire et voir des mots.
Wow.
Et mais je me souviens de la violence que c'est, de la distance qui est créée entre ce que je vis et ce que je lis. Et je t'assure que toute ma vie, j'ai essayé de me dire, du coup, comment je réduis ce fossé. Et je commence le livre en disant ça, en disant, je ne crois pas à cette langue qui serait scindée en deux. La langue qu'on a le droit, dont on a le droit de parler, la langue qui est fun, la langue qui rentre dans les pop stars musique de playlist de Spotify de Summer, la langue qu'on met sur des t-shirts et la langue qui rentre en Robert.
Ouais, c'est
d'un classisme absolu que, ouais. qui m'épouvante.
Ouais.
En fait, ça veut dire tu n'existes pas.
Ouais.
Ça veut dire la façon dont tu parles ne va pas traverser l'histoire. C'est cruel.
Mais c'est marrant, et c'est tout ton parcours, cet anti-snobisme, parce qu'au moment où t'aurais pu faire Sciences Po, tu fais une école de restauration.
Je décide de nourrir les gens.
Ouais.
Ouais. Je décide de... Et la cuisine, ça va au-delà de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce niveau-là d'excellence, moi, c'est que des 3 étoiles au Guide Michelin, c'est tu acceptes de mettre de côté tous tes besoins premiers. Tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu ne bois pas.
Ouais, c'est une sacrée formation.
J'ai fait l'armée pendant 4 ans.
Ouais.
Ce qui fait qu'après, quand t'es entrepreneuse, c'est assez simple.
C'est bien.
Il y a un côté, il y a un côté rigueur.
Ouais.
Que d'ailleurs, faut même plutôt, tu vois, maintenant, faut que je fasse l'exercice inverse en mode bonjour Camille, ma psy, le lâcher prise. Le lâcher prise, ouais, carrément. Et, mais il y a ce côté, la cuisine, c'est vraiment, tout ça dans le seul et unique but de nourrir des gens.
Ouais. Et c'est marrant parce que ça reste quand même un milieu d'hommes. Et que tu racontes que l'orphelinat, quand t'étais bébé, t'étais la seule petite fille.
Exactement. Ma vie a commencé comme ça. Moi, je suis née au Niger, donc à Niamey, qui est la capitale. J'ai été abandonnée sur un lit d'hôpital quand j'avais quelques jours et je me suis retrouvée dans un orphelinat dans lequel j'étais la seule fille, parmi des dizaines d'enfants. Je ne saurais pas répondre pourquoi. Ça peut s'appeler aussi juste le hasard. Mais c'est vrai que quand tu te penches vraiment sur la question et que tu te dis, ça reste... des zones géographiques où l'excision est pratiquée, ça reste des zones géographiques où le clitoris est un symbole d'oppression. Moi, aujourd'hui, les gens m'alpaguent dans la rue en me disant clito, tu vois. C'est la meuf du clito, c'est la meuf du clito, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Tu vois, le tourbillon, il est quand même un peu intense.
Ouais, c'est fou.
Mais j'y retournerai un jour et j'essaierai d'avoir peut-être pas forcément des réponses, mais de sentir ce qui se passe, de retourner sur ces pas-là. Et oui, le fait d'être la seule fille dans des endroits où il y avait des garçons ou des hommes, c'est assez familier. C'est pas du tout quelque chose que j'assimile à du danger.
Parce que t'as appris à t'en défendre aussi, j'imagine.
Parce que j'ai appris à m'en défendre et parce que...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je crois que j'aurais pas peur de tomber dans la violence. En fait, c'est maintenant que je sais que je peux aller jusque-là et que je m'organise pour du coup retarder ce moment-là. Je sais que mon curseur il va jusque-là. Et je crois pas avoir de problème avec ça, très sincèrement. Je pense il y a des situations dans lesquelles oui, évidemment, j'ai été violente. Moi, tu vois, j'ai pas encore eu ces situations-là, hein. J'ai jamais tapé quelqu'un, Mais il y a des situations quotidiennes qu'on voit dans les actus, dont on est conscient, dont on est consciente, qui sont arrivées à nos copines, qui nous sont arrivées à nous-mêmes. Tu vois, là, je m'extrais complètement du sujet. Mais où la violence aurait été un non-sujet. Pourquoi, tu vois Et donc, comme je sais que je peux aller jusque-là...
Ça te fait pas peur?
Non, ça me fait pas peur.
Au point que t'es même allée jusqu'à faire de la télé, est-ce que cette expérience, elle est violente aussi? Quelle époque, t'en gardes un bon souvenir? Parce que de Chavannes, pas facile.
Ouais, de Chavannes, écoutez. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, Ouais. On sacralise le moi des deux chavannes, j'en ai dans mon quotidien. C'est une typologie. Et c'est important de le recadrer là-dedans.
Ouais.
De pas dire deux chavannes. Oui, c'est un homme blanc de 50 ans qui est complètement
dehors des réalités.
Tu vois de ce qui se passe. ou alors qui pourquoi pas assume aussi le fait de pas savoir, tu vois, qui du coup essaye même pas de forcément monter en compétence, pourquoi pas. C'est pas forcément ça, pour moi ça n'a pas été violent. Parce que moi j'ai travaillé avec des tyrans pendant 4 ans.
En restauration.
Ouais. Il y a un côté où le pire de l'homme blanc de 50 ans, j'ai vu.
OK.
Tu vois, quand je te parle de curseur, c'est ça. C'est enfin, je sais pas, ma vie elle a commencé, tu voulais qu'il m'arrive quoi de pire? Enfin pardon hein, mais je et du coup il y a tout un tas de choses aussi que mais qui sont inhérentes à ma personne qui font que ces situations-là ne me font pas peur pour la simple... Alors déjà, je suis très grande. Moi, je mesure 1m85. Je suis très imposante physiquement. Je mets en plus de ça des talons, très souvent. Donc là c'est des petits, ils doivent faire 8 cm. Mais en général, je peux aller jusqu'à 15 cm. C'est-à-dire que la majorité du temps, je fais 2 mètres. C'est-à-dire que pour me dire bonjour, il faut que tu lèves la tête.
S'il te plaît, deviens présidente de la République.
Non, mais ce que je veux dire par là, et ça, je t'assure que je me tue à le dire, et c'est comme tout à l'heure quand je te disais, non, je refuse de dire que la répartie, il y a un moment donné, c'est trop tard, ça apprend. Le fait d'utiliser son corps comme quelque chose qui impose. Oui, c'est plus simple quand tu fais déjà 1m85, j'entends, et que t'es imposante, et que je fais du 44-46, et que tu vois, Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, tu peux créer... Et tu peux projeter ce truc qui fait qu'en fait, on se dit plutôt, j'ai peut-être pas lui casser, j'ai peut-être pas lui casser les couilles.
Ouais.
Et ça, alors c'est du temps, je mets toujours des très longs manteaux quand j'en ai. Donc c'est des manteaux qui font presque cap, qui traînent par terre avec beaucoup de couleurs. Je serai jamais dans la sobriété vestimentaire, à moins que tu vois là. Bon là, je te dis ça aujourd'hui, j'ai une robe bleu marine, mais sinon j'ai souvent beaucoup de couleurs. Mes bracelets, je les ai enlevés, mais sinon ça fait du bruit. Je mets des talons, je mets pas des talons avec un talon en caoutchouc, c'est toujours des talons qui font clac 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 quand je marche. Ouais. Donc en fait, tu m'entends de loin.
Wow.
Je refuse le rôle qu'on m'attribue de discrétion. Et qui est toujours très induit, hein.
Pernicieux.
Tu vois?
Bien sûr.
Je refuse et du coup, je vais à l'opposé sur le spectre. Donc, je ne chuchote pas et je ne suis pas discrète. Et quand je dis aux gens, mais pourquoi veux-tu que je fasse ça? Personne n'est capable de me répondre. Pourquoi tu veux que je sois discrète et que je chuchote? Après avoir... En fait, il faut comprendre sociologiquement, presque politiquement, culturellement, ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que là? Quand on parle de culture de viol, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de système patriarcal, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les tenants, les aboutissants? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on continue à perpétuer des trucs? Et moi, je sais que parfois, ça peut complètement déstabiliser. Mais je sais aussi qu'à la base, quand t'avais prévu de me niquer la gueule, me voir arriver, me serrer la main et devoir lever la tête, ça fait pas rien. Je refuse de croire que... Tu vois?
Ouais, t'occupes l'espace.
Ouais, j'ai une stratégie d'occupation de l'espace qui est très très claire, mais qui commence par la taille que je fais, la largeur, la grandeur, et après, une fois que c'est matériel, physique, tu vois, il y a d'autres... le cercle qui s'agrandit. L'aura, le charisme, ta voix qui porte, ça s'arrête pas que à là. Et tout ça, c'est des choses que j'aime travailler, que j'aime alimenter, et je sais pas si j'aurai des enfants, j'espère avoir des filles. Et je t'assure que ça fait partie des premiers trucs que je leur apprendrai. Avant la bienséance.
Bien sûr.
Qu'est bienséance? On s'en rend, tu vois.
Et c'est marrant parce que, est-ce que c'est aussi quelque chose que t'as transmis ta mère? Tu dis que tes parents, c'était déjà aussi un modèle original. Donc ta mère bossait, ton père était homme au foyer?
Exactement. Ma mère bossait. Donc moi, j'ai vu ma mère bosser toute sa vie. Mais bosser, c'est... partait à 7h, elle rentrait à 20h, quoi.
Ouais.
Et puis souvent, elle était en voyage d'affaires, donc elle inspectait, donc elle était souvent pas là. Et quand elle rentrait, je me souviens d'un... Elle avait des livrables. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est... Mon métier ne s'arrête pas quand j'entre à la maison. Et commence une autre phase de travail, qui est celle où tu rumines, où tu réfléchis, où tu classes, où tu... T'es allé chercher des infos, et maintenant, tu dois les... Et ça m'a toujours marqué de la voir faire, de la voir écrire des trucs, revenir, classer, avoir des pense-bêtes. Et elle devait rendre quelque chose. Ça s'appelle un rapport d'inspection. Et j'ai toujours trouvé ça hyper fort dans « Ok, t'as un pouvoir, mais in fine, t'as quelque chose que tu dois délivrer à la fin qui laisse une trace. Donc t'es pas juste là pour faire peur. » Et ce qui m'a toujours aussi impressionnée, c'est la perception qu'on avait de ce poste-là. Qu'on assimile toujours aux femmes. C'est une inspectrice, ça fait peur. Alors que, je sais pas comment te dire, ma mère, c'est la personne que je trouve la moins intimidante au monde. Donc il y avait vraiment ce décalage entre la façon dont on dépeint. Enfin, non, plutôt, il y avait un décalage entre la façon dont on peint une personne, on va décrire même un poste, et à quel point on va pouvoir souvent assimiler une femme à son rôle de oh, ça s'appelle juste une... Non, en fait, ça s'appelle juste une femme qui a du pouvoir. C'est si chelou que ça. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on va... Tu vois, il y a une forme de diabolisation.
Ah oh ouais, grave.
Oui. Alors que, enfin, ma mère, tu la rencontres, c'est une douceur. C'est une douceur absolue. Alors, caractère, elle se laisse pas... Mais une douceur absolue en termes de tempérament. C'est marrant parce que j'ai ni le tempérament de ma mère ni le tempérament de mon père. Moi, j'ai un truc encore qui vient de... Je sais pas d'où ça vient. C'est un espèce de feu qui... On peut pas l'éteindre. C'est... Je suis moi-même surprise. Hein. J'ai un truc qui dépasse tout entendement, je pense. Une énergie... Enfin, et pourtant, je suis fatiguée, hein, mais je peux me requinquer, m'arrêter, me... Et même quand je suis épuisée, j'ai trouvé le moyen de continuer. Je sais pas comment t'expliquer.
C'est une rage.
Ça s'appelle la rage. Et c'est pour ça que je crois que je... C'est pour ça que j'en veux autant à cette diabolisation de la colère. Et quand je te dis... Moi, j'ai une colère qui est très, très créatrice. C'est ça. Et souvent, on me dit, oui, mais tu verras, à un moment donné, tu seras moins en colère parce que c'est épuisant. Bah, peut-être que c'est pas le bon mot, alors. Parce que moi, je trouve... Non, ça ne m'épuise pas.
Ça te tient
ça
envie.
Me drive.
Ouais.
Ouais. Et je pense que je vais mourir tard, quoi.
Grave. Puis l'inverse de ça, c'est quand même beaucoup l'indifférence. Parfois, les gens qui se mettent pas en colère, c'est aussi les gens qui renoncent. Enfin, c'est aussi les gens qui tournent la tête ou qui veulent pas voir.
Ouais.
Toi, tu regardes. Enfin, il y a toi.
Moi, je regarde, mais après, je crois aussi, tu choisis où tu regardes. Il n'y a pas les gens qui regardent et les gens qui regardent pas. Il y a juste des personnes qui ont choisi de regarder, mais pas forcément au même endroit. Et peut-être qu'on fait en ce moment beaucoup un focus sur moi, ce que j'ai essayé de regarder. Mais j'ai pas l'impression, tu vois, même moi, dans mon entourage, c'est juste que c'est d'autres choses sur lesquelles, je sais pas, une autre pote, sur le sujet du colorisme.
Ouais.
Et tu vois, du racisme et de l'interdépendance postcoloniale. Et tu vois, tout ces... On va peut-être avoir l'impression que moi, alors que elle, c'est son sujet. C'est son focus. Donc j'ai plus l'impression que c'est une question de perspective.
Bien sûr.
Plutôt qu'une question de...
Oui, puis tu peux pas traiter tous les sujets. Est-ce que tu sens ça, une pression, justement, de devoir t'exprimer sur tous les faits d'actualité? Non, tu vas pas non plus prendre position à chaque fois.
Il y a un truc qui s'appelle dire non.
Ouais.
Pas mal.
Bah ouais, parce que s'il fallait à chaque fois.
Ouais. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on te demande de prendre la parole que tu dois prendre la parole. C'est pas parce qu'on te demande de prendre la parole que c'est un acte cruel et que tu fais et que tu trahis ta cause si tu ne prends pas la parole. La question, c'est toujours, est-ce que t'en as envie? Est-ce que t'en es capable? Est-ce que tu vas en ressortir indemne? Si tu réponds non à une de ces questions, n'y va pas.
Est-ce que t'as eu des divergences d'amitié avec des copines pour qui auraient justement un peu comme ça hateuse, pour qui l'engagement ça serait trop pour elle.
Non, j'ai perdu des copains. J'ai perdu trois amis. Ouais.
Non,
c'est pas tellement des femmes. C'est des hommes. Ça vient toucher, je pense, un truc trop fragile de masculinité. Et comme sur le sujet du fait de prendre de la place, ça commence à vraiment devenir très obvious. Il y a une forme de... En fait, tu corresponds pas à ce qu'on attend d'une meuf. En fait, tu empiètes là sur nous.
Wow.
Et comme mes sujets sont aussi ce qu'on appelle des sujets de société, donc c'est-à-dire que tu vois, quand tu es au café ou quand tu es au restaurant, ça fait partie des sujets qui sortent. Il y a ce truc un peu où on va se permettre de challenger, on va se permettre d'essayer de remettre en question. Là où mon meilleur ami qui est pro du software, on va pas essayer de le challenger sur la notion de logiciel, on va juste à minima se taire, au mieux prendre des notes.
Ouais.
Moi non. Mais encore une fois, est-ce que tu crois au principe d'égalité ou pas? Ou est-ce que tu pars du principe que je suis censée être une petite chose?
Ouais.
Est-ce que tu pars du principe que sur... C'est toujours la même chose, c'est lors d'un dîner, qu'est-ce qui fait que ce besoin de shiner, ce besoin d'exceller en société, ce besoin Et je vois bien qu'avec beaucoup d'hommes, ça pose problème.
Ouais.
Parce qu'il y a ce truc de, bah, ça c'est nous, non? Je sais pas.
Ouais.
T'es pas censé juste rire et,
ouais,
et faire la petite meuf? En fait, je fais déjà de base 3 têtes de plus que toi. De quoi tu parles, en fait? Non, mais c'est-à-dire que physiquement, ce qui sort de ta bouche, mon faire la petite, physiquement, ce n'est pas possible pour moi. Et puis, en plus de ça, je refuse, quoi. Et encore une fois, c'est, j'ai pas l'impression d'être intimidante. Maintenant, si toi, t'es intimidée, c'est autre chose.
C'est ton problème.
Encore une fois, ça ne veut rien dire de moi.
Alors, tu dis que toi, t'as pas de « je m'emballe clito » sur Insta.
Non.
Mais ton livre, donc, ça commence par une citation de Gloria Steinem. Ouais. Est-ce que, justement, t'avais quand même des figures dans la littérature ou des personnages politiques, oui, d'hommes ou de femmes inspirantes qui, genre, si tu devais avoir des tableaux au-dessus de ton livre...
Moi, la rage de Christiane Taubira restera...
Ouais, ouais.
Son phrasé, son tempo, son rythme.
Mm.
Cette façon de n'absolument jamais choisir. Ça, moi, j'adore. Je ne choisis pas entre la cuisine et le féminisme, en fait.
Ouais.
C'est pas vrai. C'est les deux m'habitent. Je suis les deux. Et cette capacité à ne jamais choisir entre politique et poésie, c'est... En fait, les deux font qu'elle est elle.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose que je trouve très beau. Et tu vois, quand tout à l'heure, on parlait d'occuper l'espace, et quand je te disais, en fait, il y a certaines façons de s'exprimer qui font qu'en face, soit tu te tais, soit tu assumes le même niveau. Christiane Taubira, elle fait ça.
Mm.
C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'elle a cité tous les auteurs, tous les poètes, tous les poétesses qu'elle cite, souvent sont des personnes qu'en plus les personnes en face d'elle ne connaissent pas, sont incapables de... En fait, du coup, les personnes se taisent. Et c'est ça que je te dis, c'est... Alors, et encore une fois, ça, je refuse de... Ça s'apprend. Mm. Ça se travaille. C'est, mm-hmm, c'est ce que je disais tout à l'heure. Michelle Obama, absolument.
Ouais.
Mais notamment, dernièrement, pour sa transparence de réalité, de discours, notamment, ouais, vis-à-vis du cheveu.
Ouais.
Et de style, ouais, vestimentaire et tout le regard qu'elle a posé sur son propre parcours où elle te dit vraiment... non, c'était pas... Tout était réfléchi.
Bien sûr.
Le monde n'était pas prêt à voir mes cheveux, à ce que je m'habille avec des créatrices sénégalaises. J'étais première dame. Et le fait qu'elle revienne dessus, parce qu'elle aurait pu aussi juste laisser couler, le fait qu'elle revienne dessus, j'ai trouvé ça très fort.
Ouais.
J'ai trouvé ça très très fort. Toni Morrison, Bell Hooks, sont des femmes... c'est une forme de respect inconditionnel et c'est une forme de... En fait, je ne serais pas là. Je n'occuperais pas l'espace que j'occupe aujourd'hui si vous n'aviez pas été là, avant. Donc, c'est le privilège que j'ai aujourd'hui de pouvoir exercer le métier que j'exerce et de pouvoir mener le militantisme tel que je le mène sans que ça soit un parcours sacrificiel. C'est parce qu'il y en a d'autres qui ont accepté de mener ce parcours-là et que ça se fasse de façon sacrificielle.
Mmh.
Et ça, on ne peut pas oublier.
Ouais, c'est clair. Est-ce que toi, t'envisages la scène? Parce que dans ton livre, il y a aussi des vrais...
Des vrais punchs.
Ah ouais, des putains de punchs, mais des punchs de stand-up, quoi.
Des punchs de...
C'est un truc de
ouais,
fou.
Ah,
j'étais là,
sûr,
j'étais
envisage.
Morte de rire, quoi. Non, mais c'est évident. Attends, c'était quoi? J'étais morte de rire. Je me demande si c'était pas sur les pets de fouf. Ou
les tétons.
Mais le chapitre sur la pêche à la capote, énorme.
Seigneur Dieu, la pêche à la capote.
Oh là là, quand elle est coincée.
Ouais.
Et c'est marrant, tu mets des mots sur un moment de gêne où t'es...
Ouais.
Où je suis en mode, ah oui, c'est vrai que c'est un truc que j'ai vécu dans l'intime de façon très vite.
Et bah tu vois, quand tu dis ça, c'est exactement pour ça que j'écris ce livre. C'est dans ce moment de gêne, dans cette apnée, quand tu reprends de l'air, et la seule façon, parce qu'en fait sinon tu restes dans ta gêne, c'est de mettre des mots. Parce que mettre des mots, déjà ça ancre une réalité. Ça fait qu'en fait, accessoirement, on peut toutes se mettre d'accord sur une réalité. Et je clôture là-dessus dans le livre où je dis, mais en fait, qu'est-ce qui est tabou quand finalement on le vit toutes? Et moi, j'ai envie qu'on s'approche un tout petit peu plus de ça, de... Mais du coup, t'as toujours pas compris qu'on est toutes pareilles? Que in fine, et que du coup, tout ça n'est qu'une masque. En fait, on a essayé de nous berner et on continue à... Et tu vois, et quand je vois, moi, c'est un exemple tout con, mais les culottes qui se décolorent,
ouais,
avec l'acidité de nos pertes. Mais quand je me souviens, quand j'ai fait ce poste, Mais c'est des milliers de DM de « Mais en fait, meuf, t'as pas compris, ça fait 15 ans que je jette mes culottes et que j'ai honte d'aller consulter pour ce truc-là parce que j'ai peur qu'on me dise que je suis chelou. Mm. » Et que c'est toujours des stratagèmes avec les mecs ou avec les meufs pour cacher qu'ils voient pas. Je sais que j'ai un date, donc faut que je mette un string. Alors qu'en fait, on a toutes des strings décolorés. Du coup. Et tu vois, ce qui fait que derrière, tu ne peux rien dire d'autre à part « Bah du coup, on passe à autre chose. » C'est ça que je veux.
Ouais, ça y est, c'est dit. Est-ce que je peux te poser, pour finir, les petites questions du questionnaire de Proust ?
Bien sûr. Je n'ai jamais fait ce...
C'est vrai ?
Oui.
La qualité que tu préfères chez un homme ?
La capacité à se taire, à écouter.
Mazel tov. La qualité que tu préfères chez une femme ?
Demander de l'aide. Les femmes qui y arrivent à demander de l'aide.
Wow, c'est beau. Le principal trait de ton caractère ?
Je suis têtue.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Leur capacité d'adaptation.
Ton principal défaut ?
L'impatience.
Ton occupation préférée ?
La masturbation.
Yes. Ton idée du bonheur ?
La liberté d'avoir le choix.
Quel serait ton plus grand malheur ?
Mourir avant 100 ans.
Où aimerais-tu vivre ?
En Espagne, à Madrid.
Ce que tu détestes par-dessus tout ?
Rendre des comptes.
Comment aimerais-tu mourir ?
En manif. Un 8 mars.
Et enfin, ton état d'esprit actuel ?
Apaisé, madame, apaisé.
Génial, merci Camille, c'était beau. C'était... merci.
Merci à toi.
Ce pouvoir.
Oh.
Et voilà, c'était Camille Aumont-Carnel. J'ai adoré ses réponses au questionnaire de Proust, hyper originales et personnelles. Que son plus grand malheur soit de mourir avant 100 ans. Je ne connaissais pas toutes ses influences et je suis donc allée les googler par la suite. Toni Morrison et Bell Hooks sont américaines. Toni Morrison est romancière. Elle a reçu le prix Pulitzer en 1988 et le prix Nobel de littérature en 1993. Ses livres les plus connus sont Soula, Le Chant de Salomon et Beloved. Bell Hooks est une intellectuelle et une activiste, théoricienne de l'afroféminisme. Elle a écrit « Ne suis-je pas une femme » ou encore « Black Men and Masculinity ». Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné de la force. C'était une belle rencontre, je vous laisse, je dois écrire mes prochaines chroniques. N'hésitez pas à réserver pour la captation de mon spectacle le 11 octobre prochain au Rosa Bonheur des Buttes Chaumont. C'est complet pour la séance de 21h, mais il reste encore des petites places pour celle de 19h. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir d'avoir les auditeurs et auditrices du podcast pour cette soirée. Vendredi soir dernier à Tours, j'ai eu une spectatrice prune en pyjama. Ce serait juste génial que vous veniez à la capter en pyjama. C'est les dernières dates du spectacle. Après l'atelier, il restera encore seulement 6 dates à la Nouvelle Ève, puis peut-être la der des der début 2024. Puis, nouvelle aventure. Il faut que vous ayez vu la saison 1, soit ce spectacle-ci. Je compte sur vous. Je vous embrasse bien fort. À lundi prochain.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast « @lesmecsquejeveuxken » sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.